Bonjour, mardi 9 août, bienvenue à Aime l'été, de nouveau Chantal Lavoie qui vous accompagne au cours de la prochaine heure. C'est un plaisir de vous présenter tous ces beaux moments avec nos invités d'aujourd'hui. La musique sera au cœur de l'émission, la musique classique notamment, la musique qui nous transporte, nous fait voyager, nous plonge en nous-mêmes et fait œuvre éducative aussi. Et puis Aime l'été, c'est le bonheur de se promener en forêt et de manger santé, sans trop se priver avec des plats colorés, même pour ceux qui ont des intolérances alimentaires. Venez donc vous en lécher les doigts à Aime l'été! Aujourd'hui, c'est le retour de la virée classique de l'OSM qui commence demain avec ce grand concert en plein air. Ce grand concert en plein air gratuit sur l'esplanade du Stade olympique. On accueille la directrice principale de la programmation de la virée classique 2022, Marianne Perron. Puis un projet très intéressant, celui de Bébé Symphonique, qui fait œuvre éducative pour les jeunes enfants. On en parlera avec le directeur artistique Nicolas Lemieux. Et puis aussi, on s'intéresse à la cuisine de Catherine avec un K, qui nous offre sur son site des recettes estivales sans gluten et sans produits laitiers. Et dans les prochaines minutes, un joyau patrimonial, celui du Sentier des Cimes, une nouvelle attraction écotouristique d'envergure internationale aménagée sur le magnifique site de l'ancienne pisciculture de la MRC des Laurentides. C'est tout ça qui vous attend à Aime l'été.
À la cime des arbres, je m'y plais. À la cime des arbres, je m'y plais. Juste à la pointe extrême d'un cyprès. Juste à la pointe extrême d'un cyprès. D'un cyprès, d'un chêne ou d'un pin. D'un cyprès, d'un chêne ou d'un pin, eucalyptus ou même l'arbre à pin, eucalyptus ou même l'arbre à pin. Tout là-haut, sans cordage ni piton, le nez dans les nuages, je tiens bon une à une comme à l'âge des bateaux, j'étudie le langage des oiseaux. Aux oiseaux, petits frères de la paix, je prie en vos prières de forêts, des marais, des rivages, des jardins. Oiseaux au long voyage, aux voisins. Les chemins de bitume m'ont usé, eus-je un don de vos plumes pour oser rameter. Ciel, monts et merveilles, cœur battant. Je suis né dans les pages d'un cahier, écolier plutôt sage. Je songeais, suis mort dans le feuillage mille fois à chercher mon visage, croix de bois. À la cime des arbres, je m'y plais. Si les chasseurs me sabrent, je vivrai enfant dans mes poèmes. Égaré juste à la pointe extrême d'un cyprès.
Philippe Forcioli, un auteur, compositeur et interprète français originaire de la Corse, mais qui a choisi de s'établir à la fin des années 60 en Provence. Grand admirateur de Georges Brassens, ça s'entend d'ailleurs, il sortait en 2021 un nouvel album intitulé « On ne sait jamais trop près ». On n'est jamais trop près du ciel, pardonnez-moi, avec des chansons inspirées de sa vie spirituelle. Il cumule 50 ans de carrière avec plus d'une dizaine d'albums. La chanson que nous écoutions avait pour titre « À la cime des arbres », cette chanson qui a été traduite en Corse même. Eh bien, sur ça, nous allons demeurer en nature. On s'en va parcourir un sentier qui ne manque pas d'intérêt, bien au contraire, le Sentier des Cimes dans les Laurentides. Nous en parlons avec Cathy Poulain, directrice des communications et marketing au Sentier des Cimes. Bonjour!
Bonjour, Madame Lavoie.
Ah, le sentier des Cimes des Laurentides, destination unique dans l'est de l'Amérique du Nord, qui accueille les familles, les aînés, enfin les personnes à mobilité réduite. Bref, on va en parler parce que c'est tout un projet et ça vient de voir le jour là.
Tout à fait. Nous avons ouvert au public le 24 juillet dernier.
Hey, c'est tout récent. Alors vraiment, d'abord, c'est sûr que le projet comme tel, ça fait déjà un bon moment qu'on y pense, mais en fait, ça devait ouvrir plus tôt. On comprend que la pandémie est arrivée, alors ça a retardé un petit peu, ça a modifié le calendrier.
Effectivement, tout à fait. Mais maintenant, nous sommes ouverts. Le projet, c'est en gestation depuis 5 ans. Et concrètement, sur le terrain, c'est en construction depuis environ 1 an. Et là, c'est tout beau, tout prêt pour accueillir les visiteurs.
C'est ça. Donc, une nouvelle attraction écotouristique d'envergure. Et c'est aménagé sur le magnifique site de l'ancienne pisciculture de la MRC des Laurentides. Alors, c'est un lieu particulier, là. Parlez-nous-en de cette pisciculture, là, qui est peut-être un endroit méconnu, au fond.
Tout à fait. Pourtant, c'était une attraction touristique majeure au début du siècle dernier. Donc, ça a vu le jour en 1933. L'ancienne pisciculture et dans ses heures de gloire, il y avait jusqu'à 150 000 personnes par année qui se rendaient là-bas. Ça a vu le jour. C'était un projet du gouvernement québécois à l'époque qui voulait démocratiser la pêche pour les Québécois. Parce qu'avant, notre territoire, on le vendait aux Américains qui venaient chasser et pêcher chez nous. Ouais. Et puis, le gouvernement du Québec a dit, ça nous appartient, il faut s'approprier cette richesse-là. Alors, la pisciculture avait deux objectifs, éduquer à la pêche et ensemencer les lacs de la région.
Et
ce qui est formidable, c'est que lorsque les gens viennent, parce que le site est vraiment... rénové et réaménagé comme à l'époque. Il y a beaucoup d'aspects historiques qui ont été conservés. Et les gens nous disent « Ah oui, je venais ici quand j'étais petit, je suis venue avec mon grand-père. » Donc, ça donne lieu à des beaux moments.
Oui, et puis là, vous avez aménagé, c'est une ferme allemande hein, qui a fait des projets du genre un petit peu à travers le monde. Là. Alors, c'est vraiment comme un espèce de parcours, c'est une construction en bois, un sentier en bois aménagé au niveau de la cime des arbres.
Oui, d'où le lien avec la chanson, effectivement. Alors, l'ancienne pisciculture a fermé en 1992 et c'est une terre publique qui est gérée par la MRC de Laurentides qui était à la recherche d'un projet pour redynamiser ce site-là et lui redonner ses lettres de gloire. Et c'est effectivement une entreprise allemande qui a déjà 12 tours en opération en Europe et qui voulait construire des tours en Amérique du Nord qui a été approché et lorsqu'ils ont vu le site, ils sont tombés en amour parce que un des objectifs des projets, c'est de valoriser le milieu. Donc, autant la nature que l'aspect culturel, alors pour eux, c'était vraiment, ça répondait à la mission de l'entreprise et c'est ainsi qu'ils ont été de l'avant avec le projet. Alors, la MRC est partenaire dans cette aventure-là et la MRC a réaménagé tout le terrain alors que l'entreprise allemande a rénové l'intérieur du bâtiment principal pour y installer.
Cette espèce de tour finalement qui existait, c'est un joyau patrimonial.
Le bâtiment, tout à fait. Donc, l'extérieur, l'enveloppe extérieure a été conservée ainsi que plusieurs bassins et fontaines qui étaient à l'époque déjà là pour accueillir les poissons et puis les élevages. Alors, il y a tout un travail là, de maçonnerie qui a été fait pour rénover tout ça. Et puis, le bâtiment principal, il y a un restaurant avec une magnifique terrasse à l'extérieur au sein des bassins. Il y a une boutique et puis il y a l'accueil qui nous amène sur le fameux sentier des Cimes. Le sentier, c'est une passerelle qui départ jusqu'en haut de la tour panoramique qui fait 1350 mètres de long. Donc, c'est un aller-retour. Et le sentier culmine sur une tour panoramique qui est haute de 40 mètres de hauteur. Alors, avec une vue panoramique. Et la beauté de tout ça, c'est que c'est une pente graduelle de 6 degrés sans obstacle. Alors, tout le monde est bienvenu.
Oui, une accessibilité universelle, c'est-à-dire que autant les gens en poussette, les gens à mobilité réduite, en fauteuil roulant, il n'y a pas de problème hein, pour circuler là-dessus, là.
Exactement. Et souvent, ces personnes-là n'ont pas accès à des points de vue aussi extraordinaires. C'est moi, ça me touche énormément lorsque les gens, depuis 2 semaines déjà, on a accueilli beaucoup de familles avec des jeunes enfants en poussette, des personnes en fauteuil roulant, puis aussi des grands-parents qui, on l'oublie, mais on a une population vieillissante, et puis les grands-parents, les aînés, mais on veut qu'ils continuent à être actifs puis à faire ce genre de découverte-là puis de pouvoir apprécier la nature. Donc, c'est un bonheur de les accueillir sur le sentier.
C'est ça. Donc, évidemment, il s'est très bien situé. C'est en bordure du parc linéaire du Petit Train du Nord. On peut donc y accéder à vélo sans aucun problème. Hein?
Mm-hmm. Tout Alors, à fait, oui. Ouais. Et c'est tout près de Tremblant. C'est à 15 minutes de Tremblant.
D'ailleurs, on a une vue sur le mont Tremblant et sur le mont Blanc aussi.
Exactement, oui. On a une vue 360 degrés sur les paysages des Laurentides.
Eh là là. Alors, c'est quelque chose, donc. Et puis, vous avez parlé des services, vous avez parlé d'un restaurant qui, évidemment, aussi sert des produits locaux, hein, fait affaire avec des producteurs locaux.
Tout à fait, oui. On est en élaboration du menu en ce moment parce qu'on vient d'ouvrir et puis... graduellement, on va offrir de plus en plus de diversité. Et puis, c'est ouvert 365 jours par année. Alors, pour le moment, on a des plats plus estivaux, des plats estivaux. Et puis, cet hiver, on va se faire un plaisir d'offrir des soupes, du vin chaud, parce qu'on a de l'alcool aussi. Puis, réchauffer les visiteurs qui vont venir nous voir. Et ce qui est super intéressant, c'est l'accueil des résidents. Alors, de la région qui sont très fiers de voir ce site-là revivre avec une telle ampleur et puis qui achètent une carte annuelle qui permet une entrée illimitée sur le site pendant 1 an. Alors, on vend énormément de cartes annuelles, ce qui démontre l'engouement des visiteurs pour le lieu.
C'est ça. Et puis, ben, écoutez, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais moi, j'ai le vertige ». Mais apparemment que, comme le sentier est très large, hein, il n'y a pas cet effet-là. Je pense que c'est pour les gens qui ont le vertige, là, il semble qu'il n'y a pas trop de problèmes.
C'est très intéressant, ça, effectivement, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont le vertige, qui arrivent à monter jusqu'en haut et qui en sont très fiers parce qu'il y a un sentiment de sécurité, même si le sentier s'élève vite de chaque côté. C'est très, très, très bien fait. C'est très solide. La sécurité est un mot d'ordre. Alors, effectivement, les gens qui ont vertige, la majorité arrive à aller jusqu'en haut et c'est vraiment formidable.
Ah, c'est merveilleux. Et puis, bon, évidemment, il faut dire que quand il pleut, là, il n'y a pas de... C'est sûr que ça... c'est surtout quand il pleut, là, quand il pleut légèrement, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, s'il y avait des orages, c'est sûr que là, on doit fermer, malheureusement, la passerelle et tout, là.
Ben, on sait, les orages passent assez rapidement et puis on est effectivement à l'affût là, des cellules orageuses. Alors, on a un système sur place là, qui fait en sorte que s'il y a des orages qui s'en viennent, effectivement, on observe le tout et il y a des mesures qui sont mises en place.
Parfait.
Mais je vous dirais que ça passe assez rapidement. Et puis, la tour panoramique, il y a un paratonnerre qui est intégré. Donc, il s'agit de descendre de quelques étages et puis on est en sécurité.
Parfait. Et puis là, le restaurant, lui, de toute façon, il est toujours accessible. Bon, par ailleurs, la passerelle l'hiver, qu'en est-il? Comment vous avez envisagé ça?
Bien, on a trouvé un petit tracteur avec un chasse-neige intégré qui va déneiger le site et puis aussi on va utiliser du sable et puis des personnes à l'entretien qui vont s'occuper de déneiger le site. C'est sûr que lorsqu'il y aura beaucoup de verglas et que tout le sentier sera glacé, on ne pourra pas ouvrir, mais on va tout mettre en œuvre pour l'ouvrir le plus souvent possible parce que on veut mettre en valeur notre nordique.
Oui, c'est ça doit être fabuleux l'hiver. Ah, mon Dieu!
Oui. Ah, mais toutes les saisons vont être formidables.
Oui, sûrement. On a toutes les 4 saisons.
Oui, et le paysage change du matin au soir avec la luminosité qui change. Et là, on vient d'ouvrir, alors on se concentre sur les opérations de base, mais dès l'automne, rapidement, le plus rapidement possible, on va offrir des activités sur place.
C'est ça, des activités éducatives, entre autres,
oui. Exactement. Oui, parce qu'il y a une mission de sensibilisation à l'environnement, à la faune, à la flore laurentienne. Alors, des visites guidées, des concerts, puis éventuellement peut-être des dégustations de vin ou d'alcool locaux
sur la tour. J'ai hâte d'y aller. Bon, parfait. Moi, je mets ça au programme bientôt. Le Sentier des Cimes, donc, en fait, situé tout près du Mont-Tremblant, il faut le dire. Alors, vous n'avez qu'à suivre les indications qu'on vous donne sur votre site.
Oui, tout à fait. Donc, c'est à Mont-Blanc. Mont-Blanc qui est la nouvelle En fait, ça se nommait Saint-Faustin-Lacare auparavant. La nomination
a été
changée pour Mont-Blanc. Donc, c'est à Mont-Blanc,
d'accord,
tout près du Tremblant. Et puis, le site Internet, c'est sentierdescimes.ca. Alors, n'hésitez pas à venir visiter le site Internet pour avoir toutes les informations, à nous appeler, puis surtout à venir nous voir. On a vraiment hâte de vous accueillir.
Parfait. Eh bien, merci d'être venue nous en parler, Cathy Poulin, et au plaisir, certainement, qu'on sera au rendez-vous. Au plaisir.
Merci à vous, Madame Lavoie.
Bye, bye.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high.
Eh oui, Watermelon Sugar est une chanson du chanteur anglais Harry Styles, parue sur son deuxième album, Fine Line. Et puis, ce jeune homme, en fait, né le 1er février 1994, est un chanteur, musicien et acteur britannique. Son premier album, hein, s'est classé parmi les 10 meilleurs albums au Royaume-Uni et aux États-Unis. En 2017. Et bon, il a fait même des débuts aussi dans le cinéma, notamment avec le film Dunkirk de Christopher Nolan. Il est le premier homme à poser pour le magazine Vogue en 2020. Voilà. Alors, c'est pas juste un jeune homme, c'est un beau jeune homme. Alors, bon, alors c'est une façon, oui, parlant de melon et tout, eh bien, on va parler avec Catherine. Bonjour Catherine, qui, a son site internet, catherine.com. Alors, et oui, ben je suis très heureuse de vous parler parce que ça va nous mettre en appétit, je suis certaine.
Oh, ben j'espère, c'est ça le but.
Et oui, alors, effectivement, parce que vous avez plein de super recettes. D'ailleurs, en allant sur votre site, pas plus tard que ce matin, j'ai découvert une recette de sundae au mûr et basilic. Alors, vraiment, oui. Et puis vous utilisez de la crème glacée végétale de coco, parce qu'il faut le dire que le grand intérêt de la chose, c'est que, en fait, vous concoctez des recettes pour des gens qui souffrent d'allergies ou d'intolérances alimentaires, donc sans gluten, effectivement, ou sans produits laitiers.
Exactement, mais c'est, on dit toujours, nous, c'est sans gluten, sans produits laitiers, mais sans que ça paraisse.
Exactement,
tellement
oui.
Tellement que ça ne paraît pas qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent qui n'ont aucune intolérance alimentaire puis ils cuisinent nos recettes juste parce que ça coûte bon. Donc moi, c'est vraiment un gage, c'est comme une promesse que je fais que quand vous allez faire des recettes comme pour Catherine, premièrement, ça va être bon pour tout le monde parce qu'on fait une cuisine, on s'adapte, donc je dis toujours c'est une cuisine d'adaptation parce que, tu sais, dans toutes les familles, il y a toujours quelqu'un qui mange pas nécessairement les mêmes choses que les autres. Donc, il faut s'adapter. Je pense
qu'il
y a des personnes, des jeunes qui sont végétaliens, des personnes végétariennes, des personnes qui mangent pas de noix, des personnes... Fait que nous, c'est un peu ça qu'on fait chez Cap pour Catherine. De base, nos recettes sont toutes sans gluten, sans produits laitiers, mais on a aussi des recettes végétaliennes, des végétariennes sans noix, sans poisson. Donc, on s'adapte comme ça parce que moi, j'ai deux filles.
C'est ça, à la base, oui. Vous avez répondu à un besoin. En fait, vous venez de combler, vous aviez le désir de combler ce besoin-là pour les familles, mais parce que vous étiez vous-même touchée.
Oui, exactement, parce que ma fille, Margot, elle a des allergies graves depuis qu'elle est née. Mais aujourd'hui, elle a 24 ans. Puis elle se porte très bien. Puis c'est une épicurienne, une foodie. Puis mon autre fille, Sarah, elle, c'est le gluten. Donc, on s'est adapté, mais c'est toujours un festival de bouffe chez nous, malgré les sangs. Donc, on dit toujours, ça va goûter bon malgré les sangs. Puis, les gens qui viennent souper chez moi ou des personnes qui n'ont pas d'allergie, ils trouvent ça super bon. Puis, nous autres, on n'est pas dans le... On n'est pas dans les restrictions, on est plus dans les découvertes.
Non, c'est ça. Ouais.
Puis tu sais, moi, c'est pas une religion non plus. Dans le fond, nous, faut que ça soit gourmand. Là. C'est juste ça. Là. C'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est gourmand, c'est bon, c'est santé. Mais après ça, si on peut le gluten, ben moi, j'invite les gens à utiliser de la farine régulière. Là. Dans toutes mes recettes, c'est toujours écrit, par exemple, une tasse de farine sans gluten ou de farine régulière. Parce
exact.
Que c'est beaucoup plus facile de transformer une recette qui sans gluten, à la transformer avec gluten que le contraire. Donc, c'est ça. Donc, nous, nos recettes sont colorées, plein, beaucoup. Je cuisine beaucoup avec les herbes fraîches aussi.
Ben, c'est ça le secret. Hein. Au fond, c'est de cuisiner aussi avec des produits frais. C'est comme ça, finalement, qu'on contrôle davantage ce qu'il y a dans notre alimentation quand on a des intolérances alimentaires.
Oui, tout à fait. On contrôle ce que dans notre assiette. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours fait, les gens m'ont dit, mon Dieu, tu devais être découragée quand Margot était petite, mais moi, j'ai pris ça comme une découverte.
C'est ça,
on peut essayer de trouver autre chose. Mais puis aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque parce que il y a beaucoup de produits de substitution. Puis le fait que le régime végétalien soit arrivé, ça aide beaucoup parce que les végétaliens, ils m'ont... Tu sais, Margot, quand elle était petite, elle ne pouvait pas d'œufs. Ben,
dans les épiceries.
Les régimes végétaliens, il n'y en a pas. Elle ne pouvait pas le poisson, les fruits de mer. Donc, toutes ces protéines-là, quand on est végétalien, c'est éliminé. Fait que maintenant, c'est plus facile d'aller au resto aussi. Ça a beaucoup évolué. Fait que c'est pour les gens qui sont céliaques, souvent, ils m'écrivent, ils disent, oh mon Dieu, j'ai eu un diagnostic, justement, découragé, mais j'ai découvert votre site, puis oh miracle, toute la famille mange la même chose que moi.
C'est ça! Exactement, on n'a pas besoin de cuisiner différemment pour le membre de la famille qui est intolérant, alors pas de problème, c'est merveilleux.
Exactement, c'était ça mon souhait le plus sincère, c'était d'asseoir tout le monde à table avec le même menu. Je pense que c'est ça qu'on a réussi à faire dans le cas pour Catherine.
Et puis maintenant, les épiceries aussi, il y a beaucoup plus de choix pour des produits spécifiques. Bon, je vois aussi que, parfois, vous remplacez carrément certains produits par du tofu, notamment. Ça fonctionne très bien.
Très bien. Il faut juste, tu sais, dans le fond, il faut se lancer. Mais ce qui est bien, c'est que nos recettes ont été testées. Fait que moi, on a moins de recherches à faire quand on commence, tu sais, quand on veut changer pour peu importe la raison, pour qu'on change notre alimentation un petit peu. Bien, les recettes de Cap pour Catherine ont été testées. Fait qu'on fait moins d'essais et erreurs. Tu sais, parce que nous, on les a faites chez nous, puis on est rendu pas mal habitué, là, parce qu'on est rendu à notre 11e magazine.
Oui, parce que vous publiez des magazines aussi, il faut le dire. Vous avez fait de la télé, hein, sur Véro TV, entre autres, et oui?
Oui, on a fait une émission Cap pour Catherine où je cuisine avec ma fille, d'ailleurs, qui est encore disponible sur tout.tv. Et c'est ça, puis à l'automne, on a sorti notre premier livre de recettes, puis puis ça a vraiment bien été. On est allé deux fois en réimpression. Fait que je pense que c'est vraiment je suis vraiment contente parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas d'intolérance, qui cuisinent les recettes. Donc, c'est ça qui est le fun. Là.
C'est bon signe. Ça veut dire que c'est bon au goût, exactement, puis que c'est vraiment coloré et tout. Parce que là, vous touchez, c'est ça, autant les salades, les sandwichs, les soupes et potages, il y en a pour tous les goûts, effectivement.
Ah oui,
et
des desserts. Tu sais, des desserts.
Oui, parce que ça, c'est votre force un peu, hein?
Oui.
Vous, c'est le dessert. Parce que ça demande...
Avant, j'avais une émission qui s'appelait du gâteau à la fois, puis je faisais que des desserts. Et je faisais aussi une levée de fonds pour l'hôpital Sainte-Justine, où c'était un kiosque de limonade. J'ai fait ça quand mes filles étaient petites pendant 12 ans. Puis c'était un festin de babettes, de toutes sortes de desserts. Donc, je suis comme devenue un peu spécialiste de desserts, mais... Mais en même temps, on mange à tous les jours. Je mange pas juste du dessert.
Non, parce que votre fille aussi collabore beaucoup. Elle est en même temps styliste alimentaire en plus. Alors, évidemment, alors puis vous pouvez tester les recettes ensemble. Mais vous avez aussi une grande amie aussi, avec qui vous travaillez depuis fort longtemps.
Marie-Josée Morin. Ben oui, Marie-Josée, elle, dans sa famille, personne n'a des intolérances. Puis depuis qu'on est en affaires ensemble, toute sa famille mange les repas comme pour Catherine. Puis tout le monde aime ça. Donc... moi, je fais toujours tester des recettes chez Marie-Josée. Bon, nous, on a testé, va tester chez vous. Je te dis pas ce que nous, on a trouvé. Dis-moi le résultat. Nos deux familles sont rendues pas mal bons. c'est des bons juges.
Alors donc, K pour Catherine, ça, c'est kpourcatherine.com. Alors, oui. Évidemment, c'est ingénieux parce qu'évidemment, il faut bien dire que Catherine s'écrit avec un K. Et puis, alors, la cuisine sans gluten, sans produits laitiers, sans que ça paraisse. Et là, vous avez sur votre site quand même beaucoup de recettes. Hein, vous en avez passablement. Donc, on peut vraiment finalement prendre un an pour... vous en avez pour toute l'année.
Les trucs et astuces aussi.
Oui, les trucs et astuces.
Ouais. Il y a tous les produits qu'on a testés sont sur notre site web dans la section « Mes indispensables ». Donc ça évite aussi d'acheter des choses qui ne fonctionnent pas. Parce
c'est
que dans
ça.
Le sans gluten, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il faut le savoir. Puis comme ça, on évite parce que ça coûte quand même cher la nourriture sans gluten. Fait que moi, j'ai fait beaucoup de tests avec toute ma liste d'indispensables. Et là, mes trucs et astuces sont là aussi. Donc, puis on a aussi maintenant des gâteaux en épicerie. On a des gâteaux
dans
la section boulangerie.
Chez Métro, entre autres,
oui. Oui, bon. Chez Métro, entre autres.
D'accord.
Alors, c'est pas mal ça.
Ça
entre le site, les magazines, puis le livre, tout le monde est en business pour...
Parfait, Catherine. Catherine Paradis, alors merci d'être venue nous en parler. Donc, kpourcatherine.com, allez voir ça. Et puis, vous allez vous en lécher les babines. Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Aime l'été.
Et oui, deuxième partie de l'émission, ici Chantal Lavoie. Eh bien, restez à l'écoute parce que dans les prochaines minutes, il sera question de la virée classique de l'OSM qui s'amorce dès demain. Alors vraiment, toute une programmation à venir. Restez là! Et nous écoutions l'OSM sous la direction de Raphaël Payaré, une musique d'Anton Bruckner, un extrait de la symphonie numéro 7. Et j'accueille à l'instant Marianne Perron, directrice principale programmation musicale et développement artistique à l'OSM, mais directrice principale de la programmation de la virée classique 2022 de l'OSM, dont on va parler puisque c'est le coup d'envoi demain. Bonjour Marianne.
Bonjour.
Très heureuse de vous reparler puisqu'on a déjà eu l'occasion de se croiser auparavant, oui, à quelques reprises.
Oui.
Et puis, bon, il y a ce grand concert en plein air, effectivement, qui est devenu une tradition. Alors, le coup d'envoi, c'est demain. Marianne, juste avant, vous avez été d'abord au cœur de toutes ces merveilleuses saisons de l'Orchestre symphonique de Montréal, enfin, depuis un bon moment. Et vous étiez là aussi dans les moments plus difficiles durant la pandémie. Vous avez fait preuve d'une très grande résilience alors que les concerts s'annulaient. Mais vous avez malgré tout fait un travail remarquable hein, pour assurer une programmation de qualité quand on a pu accueillir quand même des gens en salle. Mais vous avez aussi présenté une programmation virtuelle. Et comme, en fait, je vous cite parce que vous dites « Le numérique ne peut pas remplacer le concert en salle, mais le numérique a également une valeur. » Et je dois dire que vos captations étaient très intéressantes à regarder.
Je vous remercie beaucoup, mais vous savez à quel point tout ça, c'est un travail d'équipe. On a une équipe dédiée, passionnée, qui a été mobilisée pendant toute la durée de la pandémie. Non seulement l'équipe administrative et l'équipe de programmation, mais également tous les musiciens qui ont vraiment fait preuve d'une grande souplesse et d'une grande disponibilité. Mmh. Alors, c'est vraiment grâce à tous ces gens qu'on a pu continuer à faire des propositions musicales parce qu'on avait à cœur de maintenir nos liens avec la communauté puis de leur offrir dans cette période difficile des moments en musique de qualité qu'ils
Tout
allaient,
à fait.
On l'espérait,
ouais.
Apprécier.
Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, pour les gens d'ailleurs qui n'ont pas toujours la chance d'assister à des concerts, c'était vraiment un moment magique. D'ailleurs, on peut dire que les musiciens, au lieu de se fondre dans l'orchestre, devenaient presque des acteurs. Hein. Nous étions encore des fois plus conscients de leur jeu. Et même, je dois dire, avec les masques, hein, l'intensité du regard aussi, leur concentration, ça devenait presque cinématographique. Enfin, c'était juste un petit commentaire comme ça avant de parler de ces fabuleux concerts en salle qui s'en viennent dans le cadre de la virée classique. Alors, enfin, la programmation, 24 concerts quand même, ça, ce sera bien apprécié. Et puis, parlez-nous un petit peu de ce qui s'en vient.
Oui, alors c'est le retour de la virée classique. On avait donné un concert au stade il y a quelques mois, mais là c'est vraiment l'entièreté de la virée classique, c'est-à-dire le concert au stade et les concerts en salle, symphonique,
oui.
Plusieurs salles de la Place des Arts, en plus de la centaine d'activités gratuites là, pendant tout ce week-end. Alors on plonge véritablement dans la musique qu'on appelle classique, mais en même temps on en découvre différentes couleurs, des styles, des compositeurs, des artistes.
C'est l'occasion de faire des découvertes au fond et puis de faire découvrir aussi des gens qui parfois n'ont pas l'occasion de venir en saison régulière.
Exactement. Et puis, cette année, on a une thématique. D'abord, c'est la première virée de notre nouveau directeur musical.
C'est vrai.
Donc, non seulement il sera au stade, mais il sera là aussi pour plusieurs concerts pendant le week-end. Et on a eu envie de développer une programmation autour de la thématique des Amériques.
Mm-hmm.
Donc, nous, on fait partie des Amériques ici. Raphaël Payaré, qui est originaire du Venezuela aussi. Donc, on s'est dit, on a toute une programmation, tout un répertoire extrêmement riche, des artistes formidables et des œuvres qu'on n'a pas l'occasion d'entendre tant que ça. Et puis donc, on s'était dit que c'était vraiment une opportunité. Alors, quand on parle justement d'artistes qu'on n'a pas l'occasion d'entendre souvent ou qui se produisent même dans certains cas pour la première fois à Montréal, je pense à la formidable soprano Janine Lebic qui vient du Trinidad des Tobago. Il y a également le trompettiste vénézuélien Pacho Flores, le pianiste vénézuélien argentin Sergio Tiempo.
Mm.
On a un saxophoniste incroyable américain qui s'appelle Stephen Banks. Donc, j'en cite seulement quelques-uns ici, mais les Canadiens, James Ennis, le pianiste Bruce Liu. Donc ça, ce sont quelques-uns des artistes qui participent, qui contribuent à la programmation, parce que souvent, ces artistes-là se produisent non seulement comme solistes avec orchestre, mais en formation de chambre, Par exemple, Pacho Flores, qui va se produire au Stade olympique dans un concerto pour trompette de Rivera, va également jouer et diriger l'orchestre de cuivre et percussion. Ce sont des concerts très, très diversifiés.
C'est
comme ça.
Puis d'ailleurs, je nomme ce trompettiste-là est vraiment un des plus illustres trompettistes actifs sur la scène musicale internationale, quand même.
Ah oui, absolument, absolument. Alors, la virée classique, oui, c'est un répertoire classique, c'est vrai, mais en même temps, si vous êtes mélomane, vous allez vraiment y trouver votre compte. Mais si vous vous dites, tiens, je connais pas tant la musique classique, j'ai envie de découvrir, alors on part de concerts de 45 minutes.
C'est le format aussi qui change, qui est accessible et qui est particulier, qui nous donne finalement la possibilité d'en voir plusieurs.
Absolument. Par exemple, vous pouvez venir le samedi puis vous dire, on va assister à 2, 3, 4 concerts de 45 minutes au cours de la journée. Donc, tiens, je m'intéresse au cuivre. Donc, je vais aller voir le concert d'ensemble de cuivre et percussions. Donc, on parle d'une vingtaine de musiciens sur scène avec Pacho Flores. Tiens, pourquoi ne pas aller voir vendredi soir le tango où on a James Ennis, Jonathan Goodman, Sergio Tiempo, un ensemble en fait des danseurs qui vont nous faire découvrir les œuvres de Piazzolla. On a la musique de chambre des États-Unis. On a l'ensemble Obiora aussi le samedi sous la direction de Raphaël Payari qui va se produire. Et puis l'OSM se produit à plusieurs reprises.
Tout à fait. D'ailleurs, le 12 août,
et puis à la salle.
À la Maison Symphonique, effectivement, on va jouer. Bon, d'ailleurs, il va y avoir, vous avez parlé de James Ennis, mais c'est ça. Donc, il y a plusieurs concerts, effectivement, de l'OSM avec Raphaël Payeré. Maintenant, il y a les polyphonies baroques aussi.
Oui. Ça, c'est magnifique. Et puis, il y a tout un répertoire latin, donc principalement de l'Amérique du Sud, mais aussi du Mexique, de l'époque de la Renaissance et de l'époque baroque. Donc, on parle surtout des 16e, 17e siècle, etc. Un répertoire extrêmement riche qu'on n'a pas la chance d'entendre. Et on se disait que ça, c'était vraiment une opportunité de l'entendre. Donc, on a un chœur de 12 chanteurs. On a également une claveciniste. On a du théorbe. On a
des gens connus dans le monde de la musique baroque, entre autres Luc Beauséjour, Sylvain Bergeron, Eleanor Frey. Oui, c'est ça, vraiment des gens très que l'on a l'habitude d'entendre aussi.
Oui, et puis si on reste dans le domaine de la voix, j'attirerai votre attention sur trois autres événements. D'une part, donc, Janine Debic, qui se produira au Stade olympique, mais qui va se produire également avec l'orchestre le samedi dans une pièce de Britten qui est formidable. Et dans ce programme, on a également le célèbre Adagio de Barber. Donc, excusez-moi, je suis de Britten, mais c'est Barber. Donc, deux œuvres de Barber à ce programme. Alors ça, c'est une opportunité pour la découvrir.
C'est ça, parce qu'elle va jouer dans les Noces de Figaro au Palais Garnier en novembre et en décembre. Enfin, c'est quand même une grande soprano, oui, tout à fait.
Ah oui. Si on aime la musique vocale, ça vaut vraiment la chance, la peine de venir l'entendre. Et on a aussi deux concerts assez spéciaux qui sont, je pense que c'est comme des petits bijoux, je crois. Il y en a un, c'est littérature autochtone en musique. Oui. C'est avec la comédienne et auteure Émilie Monet, la violoniste Tara-Louise Montour et la pianiste Olga Gross. Alors, on a un choix de poètes, d'auteurs et d'autrices autochtones qui sont récités et comment dire, supportés par un choix, un très, très beau choix musical. Et on a également un concert de musique klezmer et de littérature en yiddish, parce que Montréal est un centre de culture yiddish extrêmement important, un des principaux centres au monde. C'est peu connu. Alors, il y a tout un univers à découvrir. Et puis la musique klezmer, bon, est un petit peu plus connue, mais est tellement belle. Alors, ce sont d'autres façons de découvrir la voix, la parole, les langues. Donc, ce seront des beaux concerts également.
Ah oui, c'est ça. Ben, vous parliez, c'est ça, de musique klezmer. Hein. On pense Aïra Tichmouratov, hein, qui nous a déjà fait découvrir cette musique, hein, bien sûr.
Oui, ouais. C'est vrai, tout à fait.
Ouais,
tout à
alors, fait. C'est ça. Donc, il y a plein de belles découvertes à faire. Alors, c'est fait aussi dans une ambiance très, très, très détendue, très agréable. Vraiment, on a l'impression, c'est comme une espèce de festival où vraiment, c'est très, très festif à la fois, ouais.
En fait, c'est vraiment un festival. On célèbre la musique, on célèbre disons, la musique qu'on peut partager. Hein. Comme je le mentionnais, quelquefois, c'est sûr, dans des salles très intimes de 125 places. On va également à la Maison symphonique, on est à 2000. Et en plus de tous ces concerts, comme je le mentionnais, il y a toute une programmation gratuite au Complexe des Jardins, l'Esplanade Tranquille, dans les espaces aussi, sur la rue Sainte-Catherine et dans les espaces de la Place des Arts. Donc, ça va de conférences, de concerts, d'activités participatives de type ateliers de danse, yoga. Il y a également à l'espace OSM, il y a également des œuvres en réalité augmentée, en réalité virtuelle, notamment Partitura, qui est une expérience interactive de réalité virtuelle qui est formidable.
Alors, c'est vrai qu'il y a cet espace-là aussi à voir, à visiter, hein, pour ceux qui ne sont jamais allés voir. Ça vaut la peine, vraiment, un espace très intéressant. Oui, eh bien, écoutez, il y a aussi, c'est sûr que là, il y a cette virée classique, ça se déroule en fin de semaine. Et puis, on pense à toute la programmation. Ben, évidemment, on pourrait en parler pendant... J'ai tellement de choses devant moi, de feuilles. Alors, c'est très riche. Il y a la programmation régulière qui s'en vient. Là. La date d'ouverture de la saison régulière?
Le 15 septembre. Bon. Donc, on ouvre la saison avec la deuxième symphonie de Mahler. Donc, c'est tout l'orchestre, un grand chœur, deux formidables solistes. On va également créer une pièce d'un compositeur contemporain, donc qui l'a écrit pour nous, qui s'appelle Thomas Larcher. Alors, assister à la création d'une œuvre, c'est assister à la naissance de quelque chose. Donc, ce sera également un beau programme. Et la semaine suivante, on a un concert avec Le songe d'une nuit d'été de Mendelssohn. Donc, ça, c'est le texte de Shakespeare. Donc, on est allé chercher une sélection du texte. Et donc, il y aura 7 comédiens sur scène, la musique. C'est vraiment comme une espèce de on plonge dans l'histoire du songe d'une nuit d'été de Shakespeare, mais avec la musique de Mendelssohn.
Il y a à peu près 100 concerts qui, de toute façon, qui nous attendent pour la prochaine saison. Oui. Et puis avec Raphaël Payari, bien sûr, qui va lui en faire quand même un bon nombre aussi de concerts, avec plein de chefs invités également. Mais c'est sa première véritable saison, là. C'est vraiment lui qui a fait la programmation avec tout le monde, là, mais je veux dire, bon, c'est sa première véritable saison.
Absolument. Oui, c'est sa première saison à titre de directeur musical. Donc, non seulement il est impliqué dans le choix du répertoire de ses concerts, mais dans le choix des chefs, des solistes invités, des œuvres, vraiment de la ligne dramaturgique de toute la saison. Ouais.
Et on aura le retour aussi quand même de Kent Nagano, qui a toujours dit qu'il viendrait nous revoir. Alors, il n'y a pas de problème, il sera là aussi.
Oui.
Alors, bon, Marianne Perron, merci bien. Je vous souhaite une excellente virée classique et puis on sera au rendez-vous, bien sûr.
On vous y attend.
Au plaisir. Bye bye.
Au revoir.
Et bonne saison.
Bonne saison. Thank you.
Eh bien voilà, on écoutait Pacho Flores, justement, vous savez, certainement l'un des plus illustres trompettistes actifs sur la scène musicale internationale. On en parlait avec Marianne Perron, en raison du fait qu'il sera à la virée classique de l'OSM, voilà, dans les prochains jours. Bon, alors là, on accueille, on accueille Nicolas Lemieux, directeur artistique, pour parler du bébé symphonique. Alors, c'est une expérience multidisciplinaire et immersive en 7 volets conçus pour favoriser le lien d'attachement entre les tout-petits et leurs parents. Bonjour, Nicolas Lemieux.
Bonjour.
Bon, alors comment allez-vous?
Super bien, merci, vous?
Oui, tout à fait. Eh bien, c'est ça. Donc, Nicolas Lemieux, bon, vous êtes reconnu pour vos idées ambitieuses. Hein. On sait que vous avez initié beaucoup de projets. Je pense le fait de réunir 3 orchestres au pied du Mont-Royal à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal. Il y avait également ce projet Harmonium symphonique, hein, tout récemment. Alors, ouais. C'est ça. Donc, vous avez des idées, de belles idées de grandeur. On aime ça, on aime ça. Et puis là, vous aviez eu cet autre projet. Vous avez collaboré avec Simon Leclerc, hein, qui est chef d'orchestre, compositeur, orchestrateur bien connu aussi et associé à l'OSM avec la série OSM Pop, notamment. Alors, parlez-moi de ce bébé symphonique, donc.
En fait, c'est une idée un peu qui sort de l'ordinaire,
oui, je dirais. Ça.
Ça s'est passé en fin de compte. L'idée est arrivée le 19 août 2017, justement, après le concert dans le cadre du 375e avec les 3 orchestres de Montréal. J'ai été un petit peu pris de panique à l'ouverture du concert parce qu'il y avait 80 000 personnes sur la montagne. J'entendais pas un bruit. Mais tu sais, quand il y a 80 000 personnes, tu n'entends rien, tu te poses des questions, tu sais. Alors, je suis allé dans le mobile télé, puis la première image que j'ai vu 2 bébés complètement hypnotisés par la musique symphonique et toute la foule.
Ah,
et là, j'ai comme eu un déclic, magnifique. J'ai fait comme « Oh, attends un peu, là, il y a quelque chose là, les bébés étaient vraiment absorbés.
Ouais. »
Puis l'idée après est venue de dire « Écoute, on devrait bâtir un projet vraiment pour les poupons, puis de faire de la recherche là-dessus au niveau... musical, au niveau éducation, au niveau aussi relations, parents, enfants, tout ça, puis voir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme projet pour faire triper les parents, puis amener les bébés aussi dans une nouvelle expérience. Puis au fil du temps, on a vu tous les bienfaits de cette musique-là, puis ben on a parti le projet. J'ai demandé à Simon, qui est un excellent compositeur et arrangeur que j'aime beaucoup. J'ai demandé de faire une création originale.
Ah oui, il est formidable.
Et ça a donné ce beau projet-là qui a décliné avec plusieurs volets.
Volets, oui, tout à fait, en fait. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'intérêt pour justement ce sujet-là. Il existe, entre autres, le Centre d'excellence en pédagogie musicale à l'Université Laval. Il y a vraiment des chercheurs qui s'intéressent beaucoup. Alors, vous étiez tout à fait dans l'air du temps, au fond, et puis c'est ça. Puis vous aviez raison d'être fasciné par justement la réaction de ces bébés. Alors, bref, bon, alors ça se décline en plusieurs volets. D'abord, il y a un album musical.
Ouais.
Alors ça, c'est vraiment avec...
C'est la base du projet.
C'est la base
vraiment
du projet.
C'est l'album musical qui nous a amené à vraiment... J'ai demandé à Simon de se mettre dans la peau d'un poupon pour voir qu'est-ce qu'il aimerait recevoir.
Oui.
Simon, ben c'est sûr qu'avec l'expertise et l'expérience qu'il a, il s'est vraiment détaché et il a vraiment créé un œuvre originale.
Oui.
Ça a D'ailleurs, donné quelque chose de complètement magnifique.
D'ailleurs, Nicolas, si on écoutait un extrait...
Oui, avec plaisir.
Parfait. On écoute un extrait. Ah là là, écoutez, j'en ai presque les larmes aux yeux. Vous savez ce que j'avais comme image pendant que j'écoutais la musique? Je revoyais, ben, au moment de mon accouchement, je revoyais, non, mais au moment où on me met mon fils là sur le ventre,
ouais.
Et que les yeux s'ouvrent sur,
ben, c'est exactement ça.
Sur un univers qu'il ne connaît pas, c'est fantastique.
Puis quand on a fait le projet aussi, c'est qu'on a pris... On a fait un casting de 82 bébés de toutes les nationalités qui étaient âgés entre 0 et 18 mois, qu'on a fait une séance de photos professionnelles avec chacun un instrument de l'Orchestre symphonique de Montréal.
Ah, ben écoutez, donc, vous savez quoi? On a le calendrier en studio. C'est fou,
okay.
Hein? Je le vois, là. c'est merveilleux. Écoutez, alors continuez, je suis fascinée.
Mais savez-vous, c'est où qu'il y a eu la confirmation de tout le concept fonctionnait? C'est quand on est arrivé au planétarium.
Ah oui?
Quand on a réuni pour la première fois dans l'enceinte du planétarium 42 poupons en 0-18 mois, puis que quand la musique et le vidéo immersif a parti, puis qu'on a vu toute la connexion des bébés à regarder l'écran et à regarder les autres bébés, parce que à cet âge-là, ils n'ont pas vu d'autres bébés. C'est
non,
la première
c'est
fois
oh là là.
Qu'ils se voyaient. Donc, il y avait comme un langage qui s'est comme installé entre les bébés. C'est là que c'était vraiment fascinant.
Oh,
avec
wow.
La musique, puis l'expérience au planétarium est hallucinante. Là. C'est vraiment quelque chose à vivre. Si vous avez un nouveau poupon, là, même on dit 0-18 mois, mais ça va jusqu'à 6 ans, les gens ils aiment vraiment, vraiment ça. Ça fait, c'est plus que 20 000 personnes, 20 000 bébés qui ont vu... bébé symphonique depuis l'ouverture au planétarium. C'est assez incroyable.
Ah oui, c'est ça. Donc, là, bon, il y avait, bon, on a parlé de l'album, bien sûr, mais il y a aussi ce spectacle immersif. Qui,
ouais.
Ben là, est-ce que, bon, je sais que ça commençait en mars 2022, et est-ce qu'il y a des horaires encore? Est-ce que c'est encore
on
à la fin?
On a ajouté une sixième supplémentaire pour le mois de septembre puis octobre. Il reste encore quelques places. Mais la bonne nouvelle, c'est que le planétarium va reprendre un an le film immersif Bébé symphonique en 2023. Donc, il y a tellement de demandes extrêmement fortes. Puis on s'est aperçu aussi que c'était vraiment une belle sortie pour les mamans. Ça fait du bien aussi aux mamans de sortir puis de t'sais, après un accouchement, c'est quand même toute une expérience. Donc, de pouvoir avoir quelque chose de spécial, puis de vivre un moment aussi avec le bébé de façon différente dans la maison, puis en écoutant cette belle musique-là, puis en consommant tout ça, je pense que c'est vraiment une belle expérience pour les jeunes familles.
Vraiment, bravo. Et puis, il y a un beau livre aussi de photos, hein. C'est ça. Puis bon, vous parliez de... Là, j'avais le calendrier sous les yeux. Mais donc, il y a un magazine éducatif aussi.
Oui. On a demandé, j'ai demandé à Marie-Claude Barrette, qui avait une spécialité en musique avant qu'on la connaisse au grand public.
C'est vrai.
Ça voulait prendre en charge la rédaction et aller chercher des collaborateurs scientifiques par rapport à tout ce qui était par rapport à l'aspect de l'attachement. Donc, puis on a créé un magazine pour vraiment... bien décortiquer chacune des facettes et des éléments qui peuvent être vraiment importants pour le bébé.
Puisqu'on c'est
a,
ça, ouais.
Moi, ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas un spécialiste de ça à la base, mais avec le fil du temps où ce qu'on a vraiment évolué dans le projet, c'est que à cet âge-là, les bébés 0-18 mois, ils captent comme x100 toute l'information.
Ouais. Écoutez, c'est ça, Nicolas, malheureusement, c'est tout le temps dont on dispose,
okay.
Mais enfin, Marie-Claude Barrette qui s'est impliquée à fond, et puis on découvre Bébé symphonique, c'est vraiment, et puis tout ce qui tourne autour de ce projet-là. Je vous remercie infiniment, Nicolas Lemieux, et bravo.
Merci.
Au revoir.
Bonne journée. Bye-bye.
Et à vous tous, chers auditeurs, bon, on sera là demain avec encore plein de bons sujets.